Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Bonjour chers auditeurs, une chronique du Pays Toulousain. Alors nous continuons toujours au temps des guerres de religion dans cette région toulousaine. On a quitté la ville et on regarde la ville depuis quelques châteaux. Et aujourd'hui je crois que nous partons au sud de Toulouse, Michel de Rivoire.
Alors nous allons à la Croix-Falgarde, Aline.
C'est pas loin du tout.
À une dizaine de kilomètres.
Juste avant, dans une boucle. L'Ariège rejoint la Garonne.
Le fameux confluent entre les deux. Oui. Et surtout, nous allons dans un château de la Renaissance, le deuxième que nous étudions après le château de l'Ariole, qui est un château du pastel.
Oui, un château de pastelier, encore
oui.
Un.
Ah oui, on ne fabrique pas de
On reste dans l'âge cocagne, d'or, oui. Qui était l'âge aussi, voilà. Des mouvements religieux, mais on était quand même dans l'âge d'or aussi.
Voilà. Donc on est dans cette, ce bord, ces quelques dirigeants de la ville, tant sur le plan économique, ils ont tous les leviers, que politique et patrimonial.
Ils veulent se faire plaisir, ils ont de l'argent, c'est normal.
Oui, surtout qu'ils ont... leurs confrères l'ont fait avant eux, donc ils y vont. Là, on va vraiment quitter le monde très, à la fois clos, mais très étendu, en nombre, des parlementaires des capitouls. Il y aura toujours des capitouls, ça, c'est un point de passage obligé, puisque avec le château, il faut le titre de noblesse, même si c'est la noblesse de robe. Donc on va plutôt là avoir affaire, au moins au début, à des marchands et des financiers, exclusivement. On est en 1568, le chapitre de Saint-Étienne qui couvre pratiquement toute la plaine au sud de Toulouse, des métairies, des pâturages, se défait d'une propriété à la Croix-Falgarde et cède pour 31 000 livres tout de même, ce qui est une belle somme, c'est l'équivalent d'une seigneurie moyenne, à François Delpech, fils d'un riche marchand pastelier, dont vous allez peut-être nous dire un mot.
Oui, qui est Delpech aussi, ou Delpuech. Voilà, on trouve les deux orthographes. Mais oui, qui a fait sa fortune dans le commerce du pastel. Et sur cette propriété, que trouve-t-on?
Alors,
il n'y a pas de château.
Oh, il y a vieux château ruiné. Bon, oui. Qui va servir peut-être de carrière. Parce qu'en fait, le sieur Delpech... lui aussi, il est dans la mouvance de Pierre de la Césate.
Ah oui, tout à fait. Même sur le plan familial.
C'est ça.
Donc. Puisque François Delpech, il y a eu deux François Delpech.
Oui.
Il y a eu François Delpech, père.
C'est ça.
Et il y a eu François Delpech, fils.
Le père a été associé, on peut dire, de Pierre de la Césate,
meilleure
époque.
Oui. Et puis, il s'est trouvé tuteur, François II s'est trouvé tuteur des... enfants d'un frère d'Assesa qui était
D'accord.
disparu prématurément.
Bon, ça crée
donc
des liens.
Un lien, oui. On revient au pastel aussi.
Oui, tout ça sur une période très courte finalement.
Voilà.
Très très courte. Donc, la seigneurie, comprenez, donc, on l'a dit, un vieux château, un moulin à eau, une métairie de 60 arpents, suffisant pour imaginer une belle installation. Il fait appel, toujours avec les relations que nous venons de dire, à l'architecte sculpteur Dominique Bachelier. pour la construction d'un château à plan massé, c'est-à-dire sans effet de
Oui, un plan compact.
Un plan compact, merci, avec une cour, une avant-cour et un portail d'accès dans l'axe de l'entrée du château. Et il fait bastionner, c'est-à-dire construire des pavillons d'angle avec une forme saillante pour montrer justement qu'on est encore dans une période troublée.
Alors, est-ce que pour l'aréole dont nous avons parlé la dernière fois, il y a la même chose, il y a des douves même,
Alors, un plan du tout début du XIXe siècle, le plan cadastre napoléonien, effectivement indique des douves en eau. La légende montre bien que c'était entouré d'eau.
On n'en voit plus.
On a changé d'époque complètement. Et surtout, ce plan de 1808, en fait, montre un très beau jardin régulier, avec une allée de charmilles, avec des bassins, des bosquets. Bon, même si c'est très stylisé. Mais ça, déjà, on anticipe sur la suite. À l'époque, on est encore dans, je dirais, l'autarcie, avec les métairies, le moulin. Bon. Mais le château à lui-même, c'est un château fermé, hein, défensif, voilà. Il a fait appel, ce François Delpech, à deux maîtres maçons qui sont Raymond Devaux et Raymond Uffernec. Bon, ils n'ont peut-être pas leur rue dans Toulouse, mais c'est toujours intéressant de citer des maîtres de ce type de corporation à l'époque. Il ne faut pas les oublier. Et il a fait porter 204 000 tuiles, c'est-à-dire des briques, pour construire son château. Ça donne une idée vertigineuse de l'entreprise. En 1580, donc il a mis 6 ans, l'édifice est couvert et habitable. C'est à ce moment-là que se produit l'effondrement du marché du pastel à cause de l'indigo. Heureusement, le château est terminé, mais à l'intérieur aussi, on a une magnifique cheminée à briques moulurées, un remarquable escalier droit en briques rampe sur rampe, mais il ne pourra pas le garder, ce Delpech. Donc,
Est-ce que, comme à César, il a, ou d'autres marchands pasteliers, il avait, à côté de son activité de marchand de pastel, une activité de banque, une activité... ce qui était parfois, ce qui permettait de durer.
Oui, alors, est-ce l'effet de son carnet d'adresse, nous l'avons dit, ou de ses talents, ou les deux conjugués?
Oui.
Parions pour cette hypothèse, il prend la charge de trésorier général de France.
Donc il a quand même des moyens.
Nous l'avons dit, ce sont des financiers qui résident à la Croix-Falgard au XVIe siècle et au début du XVIIe. Alors, c'était pas une charge unique, je pensais une charge qui se partageait ou en tout cas qui tournait, à la différence du sénéchal qui était une charge unique et héréditaire. Là, dans ce cas-là, ça pouvait être négocié et disparaître. Et c'est ce qui se passe, puisque il y a deux générations qui suivent François Delpech, le constructeur. Ils font pas tellement parler d'eux. Ils testent, donc c'est comme ça qu'on sait qu'ils existent et qu'ils transmettent le château de la Croix-Falgarde. Mais en 1660, le dernier représentant d'Elpech, qui s'appelle Étienne, sans descendance ruinée, laisse la seigneurie à sa sœur Catherine, comme quoi les femmes sont là pour...
Pour
sinon réparer les erreurs.
Oui, sauver les meubles.
Sauver les meubles, absolument. Mais elle va sauver et vendre à la famille de Tournemire. Alors les Tournemire, on est tout à fait fin 17e, sous Louis XIV, c'est une vieille famille noble venue d'Auvergne, enfin qui a plusieurs rameaux, et celle de Toulouse, va chausser les gants du Capitoula, du Parlement, mais elle a vraiment tous les
apanages. Et donc investir le château.
Investir le château et mettre au goût du jour. Et aussi se comporter en seigneur de Tournemire, s'il vous plaît, puisque dans un sac à procès au Parlement, on trouve... une chicaderie à propos de pauvres malheureux Bernard et Jean Ponce qui avaient accusé d'avoir pêché dans la rivière de l'Ariège, propriété de Tournemire. Vous imaginez, la révolution n'est pas loin. Vers 1750, il a un gendre du nom de Martin, Jean-Baptiste Martin, ancien capitoule, qui, ce gendre, va reprendre la seigneurie. Et pour lui, c'est le moment ou jamais de rajouter la croix Falgarde, son nom Martin, lui n'est pas très distinguable. C'est Martin de la Croix vont garder la croix Falgarde jusqu'à la Révolution. Et il est arrêté en 1793 avec sa femme Anne-Jeanne Robert de la Valette en tant qu'aristocrate enragé. Et ils vont être enfermés, persécutés, mais les villageois vont signer une pétition qui aura un succès au moment du directoire et ils obtiendront leur libération grâce aux villageois.
Oui.
À noter. Bon, ensuite, ils peuvent conserver la propriété pendant deux générations pour l'agriculture. On ne parle plus de seigneurie.
C'est un beau domaine.
Mais ils n'ont que des filles, ses descendants, et par mariage ou par lassitude, je ne sais pas, le château est vendu fin 19e siècle, un personnage important à Toulouse qui est Antoine Labitte.
Ah oui.
Et Antoine Labitte, c'est le père de Georges Labitte, qui est créateur du musée du même nom, à l'Edenoiselle.
Avec les collections données par la famille.
Voilà. Donc, le destin de ce château de la Croix-Falcade, vous le connaissez sans doute, c'est d'être vendu par appartement. Donc, les familles qui habitent. Il y a tout de même 19 appartements, de chacun environ 100 mètres carrés. Mais l'unité du château, elle n'est plus la même du tout. Donc,
alors ça, évidemment, ça pose le problème. Ces grands châteaux, c'est difficile de faire des aménagements qu'on appelle à la découpe dans des espaces qui sont, à cette époque-là, une pièce, ça fait un T3.
Sur toi, hauteur, oui.
en surface.
En surface, alors vous imaginez. Voilà. Oui.
Et bon, c'est vrai que le
donc
château de la
Croix-Falcade,
c'est une lente agonie. Et peut-être on peut se dire que...
Il s'est dit qu'il y avait des choses qui avaient disparu, des éléments décoratifs.
Oui, vous savez, ces grands édifices, ils ont un sort qui est vraiment dramatique parce qu'ils sont squattés, on enlève les cheminées, on enlève tous les éléments de décor, on brûle les planchers quand on squatte l'hiver pour se faire du feu. Ça va très, très vite.
Alors, donc, c'est en tout cas cette opération de promotion immobilière qui a été quand même très saluée à l'époque, a été imitée dans d'autres châteaux de la région toulousaine. Alors, on ne peut pas évidemment les citer, mais c'est une chose qui s'est accélérée avec le besoin de logements sociaux notamment, dans les centres-villes.
Dans la mesure où ce sont des interventions qui ont un caractère réversible, et que ce sont des opérations qui ne perturbent pas la lecture.
Extérieure au moins.
Extérieure au moins.
Parce que une chambre habitée devant une cheminée qui fait deux fois votre taille.
Oui, mais ce sont des problèmes très, très. Mais qui sont abordés aujourd'hui de façon un petit peu différente, parce que ces châteaux, parfois, deviennent de vraies entreprises.
Voilà.
Je pense à Vaux-le-Vicomte, si on veut citer un exemple prestigieux, qui vit avec les tournages de films, avec... Bon, je tends un espoir sur...
En tout cas, l'enveloppe de la Croix-Falcade est toujours visible.
Eh bien, bonne semaine et rêvez bien sur ce château de la Croix-Falcade.
We'll be right back.